Les par actualité. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeudi 29 septembre 2016, l'émission Les Paractualités commence avec Clotilde Seille au micro et vos titres aujourd'hui. Recherche de Parkinson Canada avec des retombées concrètes, semble-t-il. Célébrer les différences des jeunes pour lutter contre le suicide. Ruiné par l'achat de couches pour leur enfant, il lance un cri d'alarme. On parle là de milliers, de milliers, de milliers de dollars. Également aux Paractualités aujourd'hui, un salon de l'emploi pour les personnes handicapées en Acadie et l'accessibilité dans les écoles manitobaines. Aussi, deux entrevues. L'entrevue du jour avec Cécile Beauregard. C'est une architecte. Elle est française. Elle vit à Tours et elle est spécialisée en architecture accessible. Et puis aussi aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Linda Gauthier du Raplic. Alors, les recherches de Parkinson ont des retombées concrètes. Parkinson Canada a des attentes élevées à l'égard des 19 chercheurs qui recevront de nouvelles subventions, bourses de recherche et bourses d'études au cours des deux prochaines années. Ces chercheurs feront non seulement progresser notre connaissance de la maladie de Parkinson, une affectation complexe du cerveau, mais ils vont aussi interpréter leurs connaissances et les partager avec d'autres professionnels de la santé. Traiter fréquemment des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et poursuivre leur engagement auprès de la communauté des personnes atteintes de cette maladie. C'est le cas du Dr Sean Udao, qui a récemment perfectionné ses compétences cliniques tout en recherchant un éventuel lien entre les fluctuations de la tension artérielle et les déficits cognitifs chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou de démence à corps de Lévy au Sunnybrook Research Institute de Toronto. La bourse de recherche clinique sur les troubles du mouvement a été financée par la Garden Center Group Corporation et octroyée par le programme de recherche de Parkinson Canada. Le docteur Odo envisage de retourner éventuellement à Winnipeg, au Manitoba, pour exercer à titre de spécialiste en troubles du mouvement, une spécialité médicale faisant l'objet d'une forte demande à l'échelle du Canada. La formation de spécialistes dans ce domaine fait partie du mandat du Programme national de recherche de Parkinson Canada, puisque selon des données probantes, la demande d'une telle expertise augmentera de façon spectaculaire à l'avenir. Chaque jour, 25 Canadiens apprennent qu'ils sont atteints de la maladie de Parkinson. Parkinson Canada est fier de soutenir 19 nouvelles subventions, bourses de recherche et bourses d'études depuis septembre 2016. Célébrer les différences des jeunes pour lutter contre le suicide, un texte d'Alexandre Duval. Le Centre de prévention du suicide de Québec lance une campagne d'un genre nouveau ce mardi pour intervenir auprès des adolescents. Plutôt que de parler d'intimidation ou de détresse, la campagne, semblable et différente, mise sur la célébration des différences. L'intimidation, c'est inacceptable, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? S'interroge la directrice du Centre de prévention du suicide de Québec, Linda Poirier. Au cours des deux dernières années, le centre a notamment rencontré des centaines de jeunes de la région, d'ex-intimidateurs et des experts, pour trouver le meilleur moyen de prévenir le suicide chez les adolescents. Leur principale conclusion est que les plus grandes difficultés auxquelles les jeunes font face sont notamment l'acceptation de leurs propres différences et de celles des autres. Il y a des gens qui ont parlé de la couleur de leur peau, d'autres ont parlé de leur apparence corporelle et d'autres ont parlé d'un handicap. C'est souvent par ignorance ou parce qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes qu'on intimide les autres, de dire toujours Linda Poirier, je vous le rappelle, directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec. Alors, le centre en question a tourné trois capsules vidéo qui seront diffusées sur les réseaux sociaux dès mardi. Elles mettent en scène d'ex-intimidateurs, des adultes qui travaillent auprès des jeunes, ainsi que des adolescents qui vivent une différence, qu'elle soit visible ou non. Il y aura aussi des affiches et des dépliants qui seront également distribués dans les écoles de Québec, les maisons de jeunes et certains établissements de santé. Le réseau de transport de la capitale, le RTC, sera aussi mis à profit jusqu'en février. La campagne semblable et différente sera diffusée sur les panneaux des autobus et des abribus. Citant le plus récent rapport de jeunesse, j'écoute, Linda Poirier rappelle qu'un jeune sur cinq au Canada a eu des idées suicidaires au cours de la dernière année. Leur détresse, entre autres, est en lien avec la relation avec autrui ou l'image de soi, indique-t-elle. Il est intéressant et important, je pense, essentiel même, d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passe. Et là, nous en avons l'occasion avec Cécile Bréjard. J'espère que je prononce bien votre nom, Madame Bréjard.
Oui.
D'accord.
Tout
vous
à
êtes
fait, c'est bon.
Ah, c'est bon, parfait. Cécile Bréjard, vous êtes architecte spécialisée en accessibilité. Pour le bureau BL Atelier. Vous êtes aussi enseignante en école d'ergothérapie et vous êtes en France au moment où nous nous parlons dans la bonne ville de Tours. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Je voudrais que vous nous parliez de l'expérience que vous avez menée récemment parce que vous vous êtes spécialisée, vous, en architecture accessible, c'est-à-dire pour favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap. C'est bien ça, hein?
Oui, tout à fait.
Alors, c'est ça. Ah non, allez-y, alors, parce que vous avez fait une expérience pas mal intéressante.
Oui, alors en fait, j'ai développé mon activité à partir de 2014, tournée autour de l'accessibilité, parce que c'est... En France, on a eu une loi qui est passée en 2005 et qui devait s'achever en 2015.
Mmh.
Donc, du coup, c'est là-dessus que je me suis penchée dès 2014, un peu
oui.
tard d'ailleurs. Et en fait, à force d'accompagner les personnes en situation de handicap dans des associations ou de voir toute la réglementation assez stricte qu'on a en tout cas sur notre territoire,
mm-hmm.
j'avais besoin de connaître et de comprendre encore mieux pour avoir une qualité supérieure dans mon travail et pouvoir vraiment répondre aux contraintes. Et donc j'ai pris l'initiative de me mettre en situation de handicap pendant 21 jours.
Hmm.
Donc je me suis déplacée dans mon quotidien et j'ai vécu toutes mes habitudes en fauteuil pendant 21 jours.
Et j'ai envie de vous demander, quel constat faites-vous ?
Alors le constat, c'est que je me rends compte que notre ville qu'on croit un peu accessible et inclusive est en fait complètement l'inverse.
Aïe aïe.
Voilà, je trouve qu'on a encore énormément de progrès à faire, en tout cas nous, sur notre territoire,
mmh.
que les choses sont pas forcément prises dans leur globalité et que du coup on a des petits bouts de choses qui sont faites, mais on n'a pas de liaison entre chaque intervention qu'on peut faire sur le
mmh.
bâtiment, donc voilà. Et puis, j'ai aussi constaté qu'il y avait des très gros soucis au niveau de nos logements. On a soi-disant des logements adaptés, mais on a encore vous voyez, un ressaut de 15 cm, une marche de 15 cm pour aller sur le balcon, alors que c'est un logement accessible.
Oh là là, oui.
Bon, voilà, je me suis rendu compte de pas mal de choses et qu'on avait encore énormément de travail à fournir.
Mm-hmm. Et mais vous, c'est en qualité d'architecte que vous menez ça, mais est-ce que ça va pousser plus loin ? Est-ce que vous avez fait un rapport à la ville, par exemple ? Est-ce que la ville de Tours, du coup, est consciente de tout cela ?
Alors, j'ai pas été encore contactée
non.
par la ville.
Non,
mais
je sais.
Bien
oui.
aimé.
Oui.
Après, moi derrière ça, j'ai tenu un blog pendant les 21 jours, donc
oui.
j'espère que les municipaux sont allés jeter un petit coup d'œil quand même à tout ça.
Mm-hmm.
Mais c'est surtout que ne voyant pas, parce que ma démarche aussi des 21 jours, c'était que comme je voyais que ça bougeait pas assez, on fait de l'accessibilité parce qu'on nous oblige de le faire, hein. Il y a une réglementation et une loi.
Donc j'aimerais bien que vous nous parliez d'ailleurs.
Oui, alors effectivement...
Cette réglementation, il faut le dire que c'est une loi qui a été adoptée en France en 2005, c'est bien ça ?
Voilà, tout à fait. Février 2005, à la sortie du mandat de notre président, il a effectivement mis en place une loi où en fait il imposait à tout établissement recevant du public de se mettre en conformité à la loi de l'accessibilité avant 2015. Donc
oui.
on avait 10 ans pour le faire.
Et le résultat, c'est évident, n'est pas du tout probant.
Ah bah, pas du tout. Et pour cela, le gouvernement a mis en place en 2014 une loi un peu plus... en fait, il a resserré un petit peu les boulons
oui, oui.
En disant, bon bah voilà, maintenant vous devez déposer un dossier avec un calendrier. Voilà, donc maintenant, les gens, au lieu d'avoir 10 ans pour faire des travaux, ils n'ont plus que 3 ans pour les faire.
Ouf.
Voilà, bon, sauf les gros groupes où là ils peuvent avoir jusqu'à 9 ans, mais il faut demander une dérogation pour aller jusqu'à autant de temps. Mais voyez, donc alors qu'on avait 10 ans pour le faire, d'un seul coup on se retrouve un petit peu avec la corde au cou, avec seulement 3 ans.
Et vous pensez que ça va les faire bouger ?
ça a déjà fait bouger pas mal de monde.
Bon.
Donc,
bon.
Je reste optimiste.
D'accord. Et écoutez, on n'a plus beaucoup de temps, mais vous, donc, maintenant, vous êtes architecte, hein. Est-ce que
oui.
vous allez vous-même concevoir, suite à cette expérience, des types de logements différents? Ça vous a donné plein d'idées, alors?
Alors, c'est surtout que moi, ça m'a donné l'idée de développer une association sur la ville de Tours qui pourra
Wow.
se développer un peu plus. Justement en recherche et en innovation pour l'accessibilité universelle.
D'accord.
Et l'idée, c'est de regrouper en fait des professionnels qui travaillent dans l'accessibilité pour justement travailler sur ces fameux futurs logements ou autres aménagements.
Eh bien, bravo. Bravo, Madame Bréja. Et je m'excuse, vous avez une voix très jeune, hein. Vous êtes toute jeune.
Oui, bah, j'ai pas encore 30 ans.
Ah ben oui, eh ben, non, non, mais bravo, parce que je me dis, qu'est-ce qui peut amener une jeune femme comme ça? Avez-vous du monde autour de vous qui ont un handicap quelconque ou non? Ou ça vous
Moi,
est...
j'ai eu, comme tout le monde, j'ai eu des grands-parents vieillissants,
Voilà.
restant bloqués chez eux, à pas pouvoir bouger, à ne plus pouvoir vivre comme ils avaient envie de vivre, et je trouve ça bien dommage.
Eh bien, bravo encore une fois. Je,
Ben,
ma,
merci.
je vous en prie, Cécile Bréjard, architecte spécialisée en accessibilité en France et enseignante également en école d'ergothérapie. Cécile Bréjard, écoutez, ce qui serait formidable, ce serait qu'on arrive à se parler dans 3 ans pour qu'on sache ce qui s'est passé en France.
Ben, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas.
Merci beaucoup, 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 Madame Bréjard, et bonne continuation.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, en région, ici, retour au Québec, ruiné par des couches pour leurs enfants. Je dois dire que lorsque Anne-Laure Janson m'a amené, qui est la recherchiste ici, quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce possible en 2016? Il s'agit de deux familles, de Lévis, en Chaudière-Appalaches, qui sont à bout de ressources, littéralement, et qui lancent un cri du cœur au gouvernement pour les aider avec leur enfant handicapé. Les parents d'Émeric et de François-Xavier, qui sont deux garçons respectivement âgés de 5 et 7 ans, doivent payer des milliers de dollars en couches chaque année. Émeric, il a 5 ans, il a été victime d'une hémorragie cérébrale à sa naissance. Il est incontinent. On l'a inscrit à sa date anniversaire quand il a eu 3 ans. Il est maintenant rendu à 5 ans et en est encore sur la liste, a soutenu Annie Pelletier, la maman du petit Émeric. On parle là, bien sûr, d'une liste d'attente pour obtenir des subventions pour acheter ces fameuses couches. Les 10 à 15 couches nécessaires quotidiennement et les lingettes nettoyantes pour Émeric coûtent environ 2 500 $ par année à ses parents. Un programme gouvernemental existe pour de telles situations et devrait donc dédommager les parents d'Émeric et de François-Xavier, mais il est assorti d'une très longue liste d'attente. Elle est à bout de ressources et c'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Elle frappe à des portes depuis que François-Xavier est né, depuis 7 ans. A expliqué Marie-Dany Gaudreau, la maman de François-Xavier, son garçon de 7 ans, trisomique, et lui aussi incontinent. Et les deux familles de Lévis ont rencontré leur député, François Paradis, pour leur faire part, pour leur dire « mais enfin, écoutez, maintenant, il faut faire bouger les choses ». Seulement de savoir qu'il y a une liste d'attente pour des besoins comme cela, a dit le député de Lévis en entrevue avec TVA Nouvelles. « J'invite le ministre Barrette à se sensibiliser à ça », a-t-il lancé. Le 6 de Chaudière-Appalaches dit être en action afin de faciliter l'accès aux couches pour ces familles. À Rouyn-Noranda, des locaux neufs pour le centre de réadaptation en déficience physique. Inauguration donc de ce centre à Rouyn-Noranda, le centre intégré de santé et de services sociaux, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, inaugurait le 16 septembre dernier les nouveaux locaux du centre de réadaptation en déficience physique de Rouyn-Noranda. Des travaux qui ont coûté un peu plus de 5 millions de dollars. Les locaux situés derrière le centre jeunesse et le centre de réadaptation, la maison sur le chemin du docteur Lemay, sont adaptés aux usagers des services de réadaptation et de neurotraumatologie. Le travail interdisciplinaire des professionnels qui bénéficient de nouveaux équipements, notamment en orthophonie, se trouve aussi facilité. La directrice adjointe du programme en déficience physique, Nathalie Quirion, mentionne que l'ensemble des services de réadaptation et de neurotraumatologie sont maintenant regroupés sous un seul toit. Selon la directrice des programmes en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique, Sylvette Gilbert, les 2200 m² ont été conçus pour être faciles d'accès. Dès le stationnement, c'est plus simple, les corridors, les portes, tout est taxé en fonction des personnes à mobilité restreinte. Seul bémol, selon elle, l'emplacement un peu loin du centre-ville. Ce n'est pas évident de s'y rendre quand on ne peut pas conduire, mais en gros, je dirais que c'est pas mal le seul désavantage, précise-t-elle. Et puis à Bécomo, dans la foulée de la fermeture du centre de bénévolat Manicouagan, le CBM, plusieurs organismes doivent se réorganiser et évaluent présentement les options qui s'offrent à eux. À l'appui Côte-Nord, le ton était déçu, l'incompréhension demeurait à la suite de l'annonce de la cessation des activités du CBM et de son déficit. Le CBM gérait les fonds pour le projet de formation et soutien psychosocial sur la résilience pour les proches aidants, des fonds que la directrice de l'appui craint de ne pas revoir. Ça nous est tombé dessus la semaine dernière. Je ne suis pas certaine qu'on va revoir les budgets restants. Si la responsable du projet a été arrêtée de travailler et qu'ils lui disent qu'ils n'ont plus d'argent pour la payer, ça veut dire qu'ils l'ont toute utilisée. Analyse cette femme. Alors, c'est sûr que si le CBM n'a pas géré l'argent par projet et a pigé dans la cagnotte, c'est pas jojo pour nous. Déjà qu'on n'a pas un budget mirobolant, déclare l'appui. On veut que les services soient rendus. Pour le moment, les formations qui étaient prévues sont annulées. Une fois que l'organisme sera fixé sur le montant d'argent dont il pourra disposer, il devra trouver un autre organisme prêt à prendre la relève et voir comment le projet sur la résilience pourra être poursuivi. Et maintenant, c'est l'organisme du jour et nous allons retrouver avec plaisir Linda Gauthier, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC. Bonjour Linda.
Bonjour Clotilde.
Alors, quelles nouvelles en ce moment? D'abord, on parlait là de ressources manquantes à Bécomo. Vous l'avez peut-être entendu comme moi, voyez-vous, c'est vraiment généralisé. Quelles sont les ressources du RAPLIC?
Inexistantes.
Inexistante.
En fait, ben oui et non. En fait, de l'État, on ne reçoit rien, absolument rien. Ils veulent pas nous subventionner pour une raison inconnue, probablement pour le activiste qui est dans notre nom.
Qui doit les déranger un peu.
Ça doit les déranger effectivement. Sinon, ben heureusement qu'il y a Franck Hainaut et son chum sur le plateau Mont-Royal qui nous font une levée de fonds à tous les ans. Et puis, à la hauteur d'à peu près 10 000 $ et on vit avec ça. Alors, c'est ça nos ressources, mais on a la passion qui nous consume jour après jour.
Oui, et puis je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu l'émission avant, mais voyez-vous, il y a tellement de gens aussi passionnés, hein, comme cette jeune architecte en France, je ne sais pas si vous avez entendu, qui s'est mise en situation de handicap elle-même. Pour essayer d'améliorer leur propre plan, quoi, pour essayer...
C'est
pas grave, Linda, hein, parce que je sais qu'on est tous occupés, mais... Alors donc, ce que je voulais juste dire, c'est que des Linda Gauthier et des Madame Bréjard, c'était son nom, il en faut. Et il en faut ici et dans le monde entier. En ce moment, quels sont les grands dossiers qui vous occupent et vous préoccupent, Linda?
Oui, exactement. Ben, en fait, ce qui nous préoccupe énormément, et il y a les fêtes du 375e qui sont à venir. Et ça, on va poser des questions à M. Coderre, qui donne une conférence à la Grande Bibliothèque, justement, le mardi prochain, le 4 octobre. Je pense qu'il reste encore des places, c'est dans l'auditorium.
OK.
Alors, on a des questions à poser, savoir, parce qu'on est déjà rendu à 200 millions hein, de budget.
Oui.
Et comme les besoins sont criants, autant en itinérance qu'en accessibilité, situation de pauvreté et tout, on trouve ça cher un peu, surtout si on compare avec Vancouver en 2011 pour leur 125e, qui était 5 millions de dollars.
Ah oui.
Voilà.
Et nous, on est rendu à combien, vous dites?
200 millions.
Aïe, aïe.
Et on n'a pas terminé. C'est parce que où on se questionne, nous, où le bas nous blesse vraiment, là, c'est l'illumination du pont Jean-Cartier, qui est en fait une... Ça va donner une signature à Montréal. Sauf que c'est sur 10 ans. Pourquoi 10 ans? Je trouve que c'est un peu long. On aurait pu laisser ça 2 ans, ou tout le moins. Bon, bref.
Ouais.
Alors ça, c'est... On va lui poser des questions. Mais ce qui nous préoccupe encore plus, je dirais, peut-être plus à court terme, c'est le 50e anniversaire du métro de Montréal, ou devrais-je dire plutôt de l'inaccessibilité du métro de Montréal.
Ouais.
Alors, c'est ça.
Rappelez-nous combien il y a en ce moment de stations accessibles. C'est 9, je pense, non?
Je pense qu'on est rendu à 10, là.
Ah, Bon.
Ouais, je pense, mais Rosemont n'est pas encore ouverte. En tout cas, 9h30.
Ça, c'est une
Ça,
vraie
c'est une
joke,
liste.
parce que Rosemont, c'est depuis combien de temps, quoi? Est-ce qu'on attend ça? C'est
Ouais,
fou.
on attend ça. Je pense qu'ils ont c'est remis dans 3 ou 4 mois.
Bon.
Alors, mettons 9,5 sur 68.
Ouais,
C'est
ouais,
quand
ouais.
même pas le Pérou, là.
Non, 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 non,
C'est
non, c'est
ça.
clair, c'est
Mais le
clair.
pire de tout ça, Clotilde, c'est que
Oui.
la STM avait projeté, célébré, okay, le 14 octobre
Oui.
prochain, à l'intérieur de la station Place des Arts, qui
Qui
n'est
n'est
pas
pas
accessible.
accessible.
Mais c'est parce que je me dis, à partir du moment où tu sais que tu as fait des erreurs, puis ou que, bon, finalement, le passé, c'était la philosophie de l'époque, on construisait pas accessible, mais ben là, il me semble que tu vas pas faire ton party à l'intérieur d'une station. Quand même,
Ben oui.
il y a des aberrations. Alors, là, on attend à savoir apparemment qu'ils doivent donner des nouvelles au RUTA de Montréal, à savoir qu'est-ce qu'il y en est, s'ils changeraient pas le site et tout ça.
J'imagine qu'ils en sont bien fiers de cette station-là, certainement.
Ben, j'imagine,
Alors,
c'est
faut la
dans le
montrer aux
quartier.
caméras.
Ben, c'est ça. Il faudrait la rendre accessible avant.
Y a-t-il d'autres causes que vous surveillez en ce moment, Linda?
Ben, en ce moment, ben, il y a quelque chose qui s'en vient. Nous, ça fait partie, un gros, gros morceau. Notre vice-président, Steven Laperrière, a écrit un livre qui s'appelle La ville handicapée.
Oui.
Et ça va. Et en fait, c'est moi qui s'amuse. Ça me gêne un peu de dire ça. C'est inspiré un peu de ma vie. Ça lie autant la fiction que la réalité.
OK.
Mais c'est pour démontrer les obstacles, souvent avec humour,
Oui.
d'autres fois pour vraiment donner un bon coup dans le ventre, là, les obstacles que les personnes en situation de handicap vivent au quotidien. Alors, pour monsieur et madame tout le monde, et puis aussi pour les personnes qui sont déjà en situation de handicap, qui vont voir qu'elles ne sont pas toutes seules justement à vivre tous les obstacles, que ce soit de l'accessibilité, les préjugés qu'il y a à l'égard encore des
Eh oui.
personnes handicapées et tout, et tout, et tout.
Est-ce qu'il va y avoir un lancement, Linda?
Oui, le 18 octobre
Le
prochain.
18 octobre, hein, vous nous le referez savoir, hein, pour qu'on le
Oui, tout à
diffuse
fait.
bien.
Absolument, et c'est en formule 5 à 7.
D'accord.
Voilà.
Bon, ben écoutez,
Alors,
moi je vais noter ça. Je ne sais pas ce que je fais le 18 octobre, mais en tout cas, je vais noter dans mon agenda.
oui, et l'invitation s'en vient parce qu'on les envoie personnalisés. On en a plusieurs, plusieurs envoyés.
Bon.
Alors, c'est ça. Et je ne suis pas rendue au S encore.
Bon. Écoutez, Linda, c'est pour aujourd'hui, honnêtement, je suis un petit peu short, hein, courte en
Oui.
temps, excusez-moi pour l'anglicisme. De toute façon, on va se reparler bientôt parce qu'entre autres, je voudrais qu'on parle de ce regroupement que vous avez mis sur pied, hein, pour l'accessibilité
Oui, tout à fait.
des établissements commerciaux. Ne m'en veuillez pas, j'ai d'autres nouvelles aussi importantes là dont il faut que je parle ce matin, mais
Jamais.
c'est un rendez-vous, Linda. Hein?
Parfait, merci à vous, Clotilde.
Merci, Linda. Je parlais avec Linda Gauthier, présidente du CA, du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, autrement dit, du RAPLIC. Voici une nouvelle qui devrait plaire justement à Linda Gauthier, un salon de l'emploi pour personnes ayant un handicap en Acadie. C'est là que ça se passe. C'est le deuxième salon de l'emploi pour les personnes ayant un handicap qui se tiendra jeudi à Tracadie, dans la péninsule acadienne. L'an passé, cette rencontre avait été un franc succès, a affirmé la directrice de Vie Autonome, péninsule acadienne, et organisatrice de l'événement, Annie Chiasson-Douarion, à l'émission Le Douaron. Je vais finir par le dire, pardon madame, Annie Chiasson-Douaron. Voilà, à l'émission Le Réveil du Nouveau-Brunswick. 10 personnes ont trouvé un emploi à la suite de ce rendez-vous-là. Selon cette personne, il s'agit surtout de changer les mentalités. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire, mais les employeurs sont très ouverts, de dire la directrice de Vie Autonome. Alors, je voudrais aussi vous signaler qu'il va y avoir un premier salon de l'emploi pour les personnes handicapées à Moncton. Alors, c'est intéressant aussi de le noter. Sinon, pour revenir à Tracadie, différents kiosques et métiers seront exposés, comme ceux de caissier, serveur, cuisinier ou préposé aux soins. Pour Madame Chiasson-Douarion, la mise en commun des ressources, ça c'est vraiment un exercice de diction, hein, le nom de la madame. La mise en commun des ressources est un élément clé. On va mettre tous les services concernant l'employabilité au même endroit, expose-t-elle. Même si l'objectif principal est la recherche d'un emploi, les bénéfices d'un tel salon se mesurent aussi à moyen et à long terme, selon l'organisatrice. On peut faire tomber des barrières et être le plus inclusif possible. Alors, le salon de l'emploi pour les personnes ayant un handicap se tiendra jeudi, donc j'imagine que c'est aujourd'hui même au curling de Tracadie. Vous avez jusqu'à 16 heures aujourd'hui pour vous y présenter. Toujours dans le, au national, pardon, les écoles manitobaines doivent être et devenir plus accessibles. La province impose aux divisions scolaires d'établir un plan pour améliorer l'accessibilité aux écoles, alors que nombre d'entre elles restent inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Cela fait suite à une disposition se trouvant dans la loi sur l'accessibilité pour les manitobains, entrée en vigueur fin 2013, stipulant que les organisations publiques devaient développer de telles stratégies pendant l'année 2016. La loi identifie 5 barrières nuisant à l'accessibilité, les barrières comportementales, les barrières à l'information et à la communication, les barrières technologiques, les barrières systémiques et les barrières physiques et architecturales. Et puis en rafale maintenant, aujourd'hui à Montréalité, on vous présente des citoyens engagés du Grand Montréal et on se pose la question, savez-vous comment vous comporter avec les personnes aveugles ou malvoyantes? Il y aura une rencontre avec Ronald Beauregard, le cofondateur et directeur général de la Fondation des aveugles du Québec, un reportage citoyen, le journaliste André Ducharme qui fait du bénévolat au journal L'Itinéraire, et puis Alexandre Lourd nous présente ses adresses dans les Shop Angus, quartier Rosemont-la-Petite-Patrie. En chronique, Karine Perrault vous présente des appels de projets lancés par des arrondissements montréalais et on découvre Vues et Voix, l'organisme qui crée des livres audio adaptés. Tout ça va se passer, la diffusion, ce sera pour le samedi 1er octobre 2016 à 9h. Je suis désolée, je n'ai pas la précision diffusion sur quel canal, mais j'aurai l'occasion de vous le redonner. En rafale encore, c'est le lancement du mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. Je vais en parler d'ailleurs lundi prochain, ne manquez pas ça, avec Sarah Limoges, conseillère accessibilité universelle en loisirs chez Altergo. À Laval, consultation publique, agissons à l'échelle humaine. La Ville de Laval et le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de Laval, poursuivent leur démarche d'élaboration de politique régionale de développement social, le PRDS, en vous conviant du 28 septembre au 19 octobre 2016 à 6 assemblées de quartier. C'est sur MaTV, le 1er octobre 2016 à 9h. Voilà. Merci beaucoup pour l'information. Si vous êtes intéressé, vous consultez à Laval le site repensons.laval.ca pour obtenir plus de détails. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Anne-Laure Janson et Mathieu Tessier. Je vous donne rendez-vous lundi matin à 11h30. Bonne fin de semaine.